maintenant, verset 21. On va lire. Mais maintenant, donc on connaît le contexte, c'est qu'on est tous pécheurs. On est tous pourris. On est tous pécheurs et on ne peut pas être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Ça ne suffira pas. Et même si, comme certains païens, on a pu mettre en pratique la loi, j'allais dire, par rapport à notre conscience, néanmoins, on sera jugé du point de vue de nos actions secrètes. Et Paul a dit clairement que tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. D'accord ? Donc, juifs et grecs, il a dit aussi, sont sous l'empire du péché au verset 9. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi, parce qu'on a vu que la loi nous servait à connaître le péché, mais qu'elle ne peut pas nous sauver, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen de propitiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis, et au moyen de la foi, les incirconcis. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi ? Certes non. Au contraire, nous confirmons la loi. C'est un texte qui est très dense et qui est très important, parce que c'est là que Paul, si vous voulez, dit la manière la plus claire qu'est-ce que la justification par la foi et pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu mourir pour nous en relation avec le système des sacrifices de l'Ancien Testament. Donc il y a vraiment ici une révélation très très importante que Dieu nous donne. La justice de Dieu, c'est ce qu'on recherche. La justice de Dieu, c'est ce qu'on veut. Et le thème de l'Évangile, c'est la justice de Dieu par la foi. D'accord ? Et Paul dit, on peut avoir cette justice de Dieu, non pas par les œuvres de la loi, non pas par la loi, même si la loi témoigne de notre état de pécheur, elle ne peut pas nous sauver. Donc comment est-ce qu'on va obtenir cette justice ? Il dit au verset 22, « Par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il ajoute « pour tous ceux qui croient » à condition, bien sûr, qu'on croit. Ce n'est pas une justice, ce n'est pas une foi diffuse, universelle. Ce n'est pas un salut universel, automatique. C'est pour ceux qui croient. D'accord ? Mais comment est-ce qu'on obtient la justice de Dieu ? Par la foi en Jésus-Christ. Simple. Simple, mais quelqu'un dira, est-ce que c'est juste ? Est-ce que moi qui suis pécheur, je peux être déclaré juste comme ça, simplement parce que j'ai la foi ? Le mal que j'ai fait, je l'ai fait, non ? Alors comment est-ce que je peux être acquitté comme ça au tribunal ? Vous voyez le problème ? Et c'est là toute la question, non ? Verset 23, car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut savoir que Paul, entre le chapitre 1 et 3, il n'arrête pas de revenir constamment juif, grec, juif, grec, juif, grec. D'accord ? Quand il dit qu'il n'y a pas de distinction, ça veut dire que tu peux être juif, tu peux être grec, ça ne fait pas de différence. De toute façon, tu es pécheur. D'accord ? Être privé de la gloire de Dieu, c'est être privé de sa présence. Et si vous regardez dans Romains chapitre 9, On fait une petite incursion dans Romains 9, qui est la suite de Romains 3, verset 2. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Verset 3, « Je souhaiterais moi-même être anathème séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, et parle ici du peuple d'Israël, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, etc. » La gloire, c'était la présence de Dieu au milieu du peuple, dans le tabernacle, ou au-dessus du tabernacle, ou dans le temple. Vous voyez ? Et donc, ce que Paul dit aussi au verset 23, tous sont péchés, tous sont privés de cette présence extraordinaire de Dieu au milieu de nous, qui est finalement le but de Dieu avec son peuple. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, verset 8. Donc, si vous voulez, ce but-là, on n'arrive pas à l'atteindre. Et si vous lisez l'histoire du veau d'or, l'histoire du Sinaï avec Moïse, la gloire de Dieu était là, mais comme le peuple péchait, le peuple était détruit. Enfin, c'est une histoire sans fin, on n'y arrive pas, vous voyez ? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont, alors, c'est là le grand miracle, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors on va dire, comment c'est possible d'être justifié gratuitement, donc vous n'avez rien à payer ? Par sa grâce, ça veut dire quoi, sa grâce ? La rédemption, c'est le rachat, c'est-à-dire qu'on a été racheté à un grand prix. Nous, on ne paye rien, mais Dieu paye le prix pour que nous, on soit rachetés, vous voyez ? Et ce prix, il est payé par Jésus-Christ, c'est son sang précieux versé sur la croix. C'est pour ça qu'il est dit la rédemption qui est dans le Christ Jésus, dans le sens que c'est son sang versé à la croix qui nous rachète. Ok ? Qui paye le prix pour notre justification, en d'autres termes. Donc nous, c'est gratuit. Lui, ça lui coûte sa vie. Et sa grâce, finalement, c'est cet amour qui l'a poussé à payer ce prix à notre place. C'est cet amour dont il est dit un peu plus loin dans Romains chapitre 5, verset 8. Verset 7. « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs. » Et pour Dieu, un pécheur, c'est un ennemi qui l'offense, parce qu'on a péché contre lui, vous voyez ? C'est quelqu'un qui a fait du mal à Dieu, un pécheur. Vous suivez ? Mais dans ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Vous voyez ? Il dit, mourir pour un ami, bon, c'est un amour extraordinaire, mais à la limite, on peut l'imaginer. Vous voyez ? Sur un terrain de bataille... Un soldat qui meurt pour son ami, bon, ça peut se concevoir. C'est rarissime, mais ça peut se concevoir. Mais mourir pour un ennemi, c'est quoi cet amour-là ? C'est l'amour de Dieu, c'est la grâce, comprenez ? Donc, je répète le verset 24. « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pour nous, c'est gratuit. » Sa grâce, c'est le fait qu'il a envoyé son Fils. Le rachat, c'est le prix payé à la croix pour que nous, on soit gratuitement justifiés. Et c'est Jésus qui a payé ce prix. Verset 25, c'est lui, donc Jésus, que Dieu a destiné comme... Alors dans nos Bibles, c'est marqué « moyen d'expiation », très souvent. Qu'est-ce qui est marqué dans vos Bibles ? Verset 25 de Romains 3.
Ah, 25.
Oui. C'est lui que Dieu a destiné, dites-moi.
C'est lui.
Allez-y.
C'est ça, qu'a destiné à être une victime propitiatoire.
Ah, toi, tu as la bonne version. Une victime propitiatoire. Quelqu'un d'autre ?
Dieu Dieu l'a offert en sacrifice. C'est 25-26.
Dieu l'a offert en sacrifice.
Dieu l'a offert en sacrifice. Alors par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui.
Ça, c'est une traduction. C'est comment dire ? C'est de la bouillie. Et puis.
C'est pour les bébés.
C'est la bouillie pour bébé, voilà, c'est ça. Et puis, toi ?
Victime expiatoire.
Victime, alors, parfois c'est victime expiatoire, parfois c'est victime propitiatoire, parfois c'est simplement offert en sacrifice. Donc, si vous voulez, évidemment, ça veut dire tout ça, bien sûr.
Mais c'est la même chose.
C'est un peu la même chose, mais il y a des détails qui sont importants, surtout quand Paul parle de manière aussi concise, dense. Chaque mot vaut son pesant d'or, vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, si. Pour vouloir être plus simple et expliquer les choses, vous prenez un mot pour un autre en disant ce sera plus clair pour les gens. Le problème, c'est qu'on est plus clair, mais en même temps, on perd de la puissance de ce qui est dit. Vous suivez ?
La version Sommer, c'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés.
Version Sommer, une victime destinée à expier les péchés. Mais voilà, je vous explique. L'expiation, ça nous concerne nous. On a un péché, il faut l'enlever. Expier, ça veut dire enlever. D'accord ? Donc, il y a un sacrifice pour que notre péché soit enlevé. Mais la propitiation, ça veut dire rendre Dieu propice. Romains 1, verset 18, Dieu est en colère. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous suivez ? On part de Dieu en colère. C'est de là qu'on part. On arrive ensuite à montrer que l'homme, qu'il est en colère parce que l'homme est pécheur. Paul montre que tous ont péché. Et donc on cherche une solution. Vous suivez ? Et la solution doit régler le problème le plus grand, c'est que Dieu est en colère contre nous. Il faut le rendre propice. Vous suivez ? Vous me direz, oui, mais ça ressemble à des histoires... comment dire, de religions sanglantes où il faut rendre les dieux propices et puis on fait une sorte de sacrifice pas possible pour essayer que l'orage s'arrête, que l'éclair arrête de nous tomber dessus. Vous voyez ? Mais la grande différence entre ces religions païennes où on essaye d'apaiser les dieux par toutes sortes de choses, y compris des sacrifices humains parfois, la grande différence, c'est que Dieu ne nous demande pas de sacrifier nos propres enfants ou je ne sais trop quoi. Et quand il a demandé à Abraham, il a retenu Abraham. Parce qu'il a pris son propre fils pour nous. Vous voyez ? Donc ça donne l'impression d'une religion de vengeance, ou où Dieu exige, enfin un Dieu en colère exige de nous toutes sortes de choses, mais c'est exactement l'inverse. Ça ressemble, mais c'est exactement l'inverse. Parce que c'est Dieu lui-même qui paye le prix. Vous suivez ?
Mais c'est Jésus quand même.
Et Jésus et le Père l'ont fait. En plein accord. Ils étaient d'accord ensemble. Regarde avec moi dans Hébreux. Jésus n'était pas obligé de le faire. Il dit, c'est moi qui donne ma vie. Personne ne me la prend. Dans Jean, chapitre 10. Mais regardez dans Hébreux 10. Verset 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, c'est un moment très particulier qui est décrit ici dans l'Épître aux Hébreux. Vous savez que quand Jésus est né, avant d'être né, il a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Et avant d'être conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie, il était dans la gloire avec le Père. Vous suivez ? Au moment où il va descendre sur la terre, et j'aime beaucoup, avec Jeunesse en Mission, autrefois, il faisait une sorte de mime, un mime qui s'appelait, je crois, l'ami. Et puis, il représentait avec des personnes habillées en noir une sorte de séparation entre le Père, le Fils et le monde. Vous voyez ? Et puis, à un moment donné, on voit que le Père et le Fils, ils discutent ensemble. Et puis après, le Fils se retire discrètement. Et puis, on voit le Père qui prend un berceau et qui pose le berceau de l'autre côté de la barrière. Vous voyez ? Et on comprend que c'est le Fils qui entre dans le monde. Vous voyez ? C'était une très belle image. C'est un mime. Mais ici, il est dit au chapitre 10, verset 5, « C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, il parle avec son père, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Aujourd'hui, conférence de part pour
aujourd'hui. Non, il n'y a pas aujourd'hui, je crois pas, non. Ah. Cet après-midi, l'après-midi.
Aujourd'hui, après-midi.
Oui, après-midi.
Quelle heure?
2 heures.
2 heures?
Ouais. Ah. Bonjour, ça va? Tu viens cet après-midi?
Oui, parce que j'ai oublié le matin, j'ai oublié les 2 heures. Après-midi.
Ah. Ouais. Ok, si vous venez à 2 heures, c'est super.
Ok, merci.
Ok, à tout à l'heure.
Merci.
Ok. Donc, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le rouleau du livre, c'est le texte de l'Écriture, mais ça représente la volonté du Père. Maintenant, le Père, le Fils, Saint-Esprit, ils discutent ensemble. On peut s'imaginer les choses comme ça. On n'a pas tous les éléments. On a quelques... C'est comme si quelqu'un avait écouté un peu à la porte, un prophète, et il sait, dans les psaumes là, qui sont cités, il sait un peu ce qui s'est passé dans le ciel avant la venue de Jésus-Christ. C'est extraordinaire, d'accord? On n'a pas tout le détail, on n'a pas tout le script, mais on a quand même des éléments qui nous montrent à quel point Dieu nous aime. Le Père et le Fils se sont mis d'accord. D'accord? Le Fils a volontairement dit, Père, tu as besoin d'un sacrifice parfait. Tous les animaux qui ont été sacrifiés pourront jamais satisfaire la justice, jamais satisfaire l'être absolument pur et parfait de Dieu, et jamais purifier les hommes de leurs péchés, à cause de toutes les offenses qu'ils ont commises. La seule solution, c'était que Dieu lui-même, en Jésus-Christ, paye le prix à notre place que nous ne pouvions pas payer. Vous suivez? Donc, on revient à Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation. Moi, je préfère le mot propitiation qui est dans le texte grec, hilasterios, parce que c'est un mot qui veut dire rendre Dieu propice. Vous voyez? Effectivement, Dieu est en colère. Mais au lieu que de nous perdre, il préfère, par amour pour nous, payer le prix lui-même, en accord avec son Fils. Vous voyez? Parce que le Père et le Fils sont parfaitement un, et en même temps, il y a une certaine distinction quand même dans la Trinité. Ce qui fait que le Fils vient sur la terre, il donne sa vie, il paye le prix à notre place. Il est puni à notre place, vous suivez? Il est la victime propitiatoire. Ça va? Dans le même mot hilasterios, c'est le mot qui veut dire propitiation, mais qui veut dire aussi couvercle. Parce que dans le lieu très saint, dans le tabernacle, il y avait, derrière le voile, il y avait l'arche de l'Alliance. C'était un coffre dans lequel il y avait les tables de la loi qui représentaient ce que Dieu exigeait de son peuple. Et les deux chérubins regardent vers les tables de la loi, et au-dessus des chérubins, il y avait la gloire. Dieu était là. Donc Dieu regarde les tables, et il voit que que le peuple a transgressé ses commandements. Il est en colère. Le souverain sacrificateur entrait une fois par année et il mettait le sang des animaux sur le couvercle pour que lorsque Dieu regardait les tables, le sang couvre les péchés. Vous comprenez? Et que Dieu leur soit propice. C'est ça le sens de la propitiation. Et quand le sang de Jésus est versé, c'est pour notre propitiation. Vous suivez? Donc il est victime propitiatoire. Il est à la fois souverain sacrificateur, et victime, les deux ensemble. Mais quand le mot victime est utilisé, ça ne veut pas dire que c'est malgré lui. C'est là qu'il ne faut pas comprendre. Vous voyez, Jésus ne dit jamais, moi je ne voulais pas y aller, c'est le Père qui a voulu. Vous voyez, non. Il l'a fait volontairement, en plein accord avec le Père. Voici, je viens, je me présente, je le ferai. Quand je viens sur la terre, je sais pourquoi je viens. C'est pour le sacrifice parfait. Vous voyez? Donc c'est lui que Dieu a destiné comme propitiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Toujours, cette précision, j'allais dire, ça ne marche que pour ceux qui mettent leur foi dans le sang de Jésus. Vous voyez ? C'est lui mon salut. Je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai besoin d'un sauveur. Et je fais confiance en son œuvre parfaite. Donc, tout ce que moi j'ai essayé de faire pour être sauvé, j'abandonne. Je sais que ça ne servira à rien. Et je m'appuie uniquement sur ce que lui a fait pour moi. C'est pas extraordinaire, ça ? Alors, pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Afin de montrer sa justice. Dieu aurait été injuste d'effacer notre dette en disant « ils n'ont rien fait, il n'y a pas de mal », alors que ce n'est pas vrai. Vous savez, c'est un petit peu comme quand quelqu'un vous dit « oh, je te demande pardon », vous dites « ah, mais non, il n'y a rien, non, c'est pas grave, non, moi je t'ai pardonné, tu parles que je t'ai pardonné. Je ne t'ai pas pardonné, tu m'as fait mal, tu m'as offensé, je t'en veux à mort, et là je suis un hypocrite et je te dis « non, non, il n'y a rien, ça, tout va bien ». Vous comprenez ? Dieu n'est pas un hypocrite. Dieu est vrai, Dieu est pur, Dieu est juste et veut montrer sa justice. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Vous comprenez ? Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le péché en disant c'est parce que à ce moment-là, l'univers s'écroule. Parce que la base de tout ce qui existe, c'est basé sur Dieu lui-même, sur son caractère pur et parfait. Donc si Dieu renonçait à sa justice, il renoncerait à lui-même et tout disparaît. Prenez, c'est impossible. C'est même pas pensable. C'est impensable. Et donc, Dieu devait montrer sa justice. Et il la montre en l'exerçant sur son propre fils. Vous voyez ? Pour que nous puissions être sauvés. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Et l'ennemi qui voulait notre perte s'est fait avoir lui-même en croyant avoir la victoire sur Jésus. En fait, la mort ne pouvait pas le retenir parce que lui-même était sans péché. Il était la victime parfaite, vous voyez ? Le sacrifice parfait, plus exactement. Et donc, il est ressuscité le troisième jour, et c'est l'histoire du salut. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est-à-dire que, jusque-là, il y a beaucoup de péchés qui avaient été commis. Ça n'avait jamais été vraiment réglé, puisque les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas nous purifier du péché. Donc il fallait qu'à un moment donné, la justice soit faite. Et Dieu l'a faite en Jésus-Christ. Donc il s'est montré juste. Mais tout en justifiant le pécheur. C'est ça qui est extraordinaire. Donc Dieu reste juste tout en nous déclarant juste. Il faut le faire quand même. C'était impossible si quelqu'un ne prenait pas notre place. Vous suivez ? C'était impossible. Il fallait que quelqu'un prenne ta place. Mais le résultat net, on verra ça plus tard, c'est que vous êtes mort avec Christ. Parce que quand Christ est mort sur la croix, puisqu'il a pris ta place, tu es mort avec lui. Et donc au moment où tu reçois la grâce de Dieu, tu reçois sa vie nouvelle, mais tu es mort à ta vie ancienne. Et la mauvaise compréhension de la grâce, c'est de dire « j'ai le pardon », mais je reste dans ma vie ancienne et je continue à pécher et après moi le déluge. Vous voyez ? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une fausse conception de la grâce. Vous suivez ? Alors, on va relire. Verset 23. Il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme propitiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. En parenthèse, si vous enlevez le mot propitiation, d'accord, et vous parlez juste de sacrifice, le sang dont il est parlé n'a plus la même connotation. Parce qu'on ne voit plus le sang sur le propitiatoire. Hein. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et ça, vous voyez, arriver à être juste tout en justifiant les pécheurs comme nous, ça, c'est extraordinaire. Ok ? Ne pensez pas un seul instant que Dieu a accepté d'être injuste pour pouvoir nous pardonner. Non. Dieu n'est pas comme ça. Nous, on est comme ça. Nous, on peut fermer les yeux. Vous voyez ? Nous, on peut dire, bon, c'est pas grave, on passe l'éponge. Dieu ne passe pas l'éponge. Vous comprenez ? Parce que Dieu est juste. Mais sans passer l'éponge, il nous pardonne. Parce qu'il prend sur lui. Il assume la dette et il la paye lui-même. Celle qu'on ne peut pas payer. D'accord ? Verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier ?
Il est exclu.
Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non. Mais par la loi de la foi. En d'autres termes, si on était sauvé par nos propres œuvres, on pourrait se glorifier en disant oui. Médaille, d'accord ? Les œuvres que j'ai faites sont tellement extraordinaires, j'ai tellement aidé de monde, j'ai travaillé dans une ONG, j'ai occupé des réfugiés, j'ai gardé la médaille, donc je peux être sauvé. Et Dieu m'accueillera dans son ciel en disant « Jean-Hugues, c'est bien ce que tu as fait pour les migrants, tout ça, donc tu vas être sauvé. » Non. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour faire du bien aux autres. Vous savez ça. Il y a des gens qui font de l'humanitaire mieux que les chrétiens, ou sinon au moins aussi bien, et qui n'ont rien à faire de Dieu. Vous voyez ? Peut-être que dans leur conscience, ça les aide. Mais Paul dit, il n'y a pas de sujet de se glorifier. La question n'est pas là. Vous pouvez faire du... C'est bien de faire du bien. Il n'y a pas de souci. Faites du bien autant que vous pouvez. Le problème n'est pas, la question n'est même pas là. La question, c'est qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Vous voyez ? Et donc, il n'y a aucun sujet de gloire. Aucun. C'est exclu. Par la loi des œuvres, non, parce que par la loi des œuvres, justement, à ce moment-là, il y en a qui pourraient se glorifier plus que d'autres. D'accord ? Par la loi de la foi. C'est-à-dire reconnaître, c'est Jésus qui a fait l'œuvre que moi je ne pouvais pas faire pour moi, c'est lui qui a pris ma place, et je mets toute ma confiance dans ce que Jésus a fait pour moi. C'est ça la foi, ici. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ok ? Mais ce que Paul dit ici, c'est un peu, enfin, c'est tout à fait révolutionnaire. Parce que dans notre ordinateur ici, on a été formaté pour mériter.
Faire.
Voyez, faire des choses pour mériter. On est formaté comme ça. Et nos parents nous ont formaté comme ça. Voyez, et c'est ce que fait la loi. Fais ça et tu vivras. Si tu ne le fais pas, tu seras maudit. Voyez, donc on est formaté comme ça. Et donc, quand Paul dit non, on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi, alors là, on ne comprend plus rien. Hein, on est dépassé. Et pourtant, c'est exactement ça l'évangile. Et c'est ça le grand dilemme entre les Juifs et les Grecs. Vous voyez, et Paul va en reparler dans les Romains chapitre 9, 10 et 11. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, parce qu'il dit, évidemment, si on était sauvés par les œuvres de la loi, à ce moment-là, il n'y a que les Juifs qui pourraient être sauvés, parce que c'est eux qui connaissent toute la loi et qui peuvent tout mettre en pratique. D'accord ? Donc nous, les païens, on a perdu d'avance. Donc ça voudrait dire que Dieu est seulement le Dieu des Juifs. Et les païens, tant pis pour eux. Et Paul dit non. Il est aussi le Dieu des païens. Alléluia.
Les Juifs, ils ont parlé dessus, par contre.
Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis, et au moyen de la foi, les incirconcis. Ok ? Quand vous dites circoncis, incirconcis, juif, païen, ça revient au même, dans le vocabulaire de Paul ici, bien sûr. En d'autres termes, que tu sois juif ou grec, de toute façon, il faut la foi en Jésus pour être sauvé. Mais la foi en Jésus dans le sens de reconnaître ce qu'il a fait sur la croix pour moi, et qu'il est mort à ma place, et qu'il a pris ma place dans cette question du pardon des péchés. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi ? Certes non, au contraire, nous confirmons la loi. Parce que bien sûr, la question qui va se poser, alors puisqu'on est sauvé que par la foi, donc la loi, elle ne sert plus à rien. On va l'enlever. Il n'y a plus de loi. Il n'y a que la foi qui compte. Vous voyez ? Et Paul dit, eh ben non, on confirme la loi. Donc on verra plus loin pourquoi est-ce que Paul, tout de suite, ferme cette porte à cette suggestion de dire c'est plus la peine, la loi ne sert plus à rien, vous oubliez la loi, de toute façon on est sauvé par la foi, vous voyez ? Non. Il y a une adéquation parfaite, ok, entre la loi et la foi, ça marche ensemble, mais pas comme nous on l'imagine. Vous voyez ? C'est pas la loi, c'est pas les œuvres de la loi qui nous sauvent, c'est seulement la foi, mais ça n'annule pas pour autant la loi qui reste, si vous voulez, ce qui nous montre qu'on est pécheur. Donc on a toujours besoin de la loi. Oui ?
Mais sans le Saint-Esprit, ça reste impossible.
Sans Saint-Esprit, ça reste impossible, et Paul va en parler aussi. En fait, si vous voulez, à la fois, Paul répond à certaines questions, mais on s'en pose plein maintenant. D'accord ? Parce qu'on dit, ok, j'ai compris, c'est Jésus qui a pris ma place. Dieu peut rester juste tout en justifiant le pécheur. Ça, c'est bon, j'ai compris. Mais alors, ça marche comment ? Il y a plein de questions qui viennent. On n'est pas encore à la fin de l'Épître aux Romains. Vous voyez ? On a quand même posé la pierre fondamentale, c'est Jésus-Christ. Sans lui, ça ne marche pas. Parce qu'il faut que Dieu reste juste tout en justifiant le pécheur. Il fallait que Christ meure sur la croix. Vous suivez ? Il fallait que quelqu'un prenne notre place. Sinon, on ne pouvait pas être acquitté au tribunal. Imaginez qu'on raconte l'histoire d'un père qui est juge. Bon, on va dire que c'est quelque part dans le Far West, d'accord ? Et il y a son fils qui fait les 400 coups et qui mérite une punition, voilà. Peut-être d'être pendu, en tout cas d'être fouetté ou je ne sais pas quoi. Donc, il est juge, il doit être juste, d'accord ? T'es juste. Ça peut être ton fils, ça peut être n'importe qui, t'es obligé d'être juste. Mais c'est son fils, il aime son fils. Et il ne veut pas que son fils subisse une telle punition. Vous voyez ? Parce qu'il sait que cette punition peut le faire mourir. Parce que c'est des... Alors qu'est-ce qu'il fait ? Dans l'histoire qu'on raconte, il dit « Ok, la sentence, à cause de ce qu'il a fait, c'est les 40 coups de bâton ou c'est je ne sais pas quoi. Par contre, je prends sa place et c'est moi qui aurai les 40 coups de bâton. » Donc la justice est faite, mais quelqu'un a pris la place du condamné pour porter la punition. Vous comprenez ce que je veux dire ? La justice est faite, personne peut attaquer ça, mais il prend sa place. Vous savez, ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. Bon, c'est une image qui a ses limites, évidemment. Mais ça vous donne une idée de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Oui ?
Et en fait, la parabole du fils prodigue,
oui,
c'est l'annonce de ça.
La parabole du fils prodigue, c'est l'annonce de ça, effectivement. Comment est-ce qu'un père, au lieu de démolir son fils et de... Vous voyez, lui mettre une volée de coups qu'il aurait bien mérité, il dit tout de suite, apportez la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt. Mais le fils aîné, quand il apprend ça, il dit, mais c'est quoi cette histoire ? Le gars, il a mangé notre bien avec les prostituées, il revient comme un cochon, là, et puis maintenant, on lui met la plus belle robe, on fait la fête. Et moi, alors, j'ai fait toutes les œuvres. D'accord ? Et tu ne m'as même pas donné un chevreau. Et puis le père lui dit, non, mais tout ce qui est à moi est à toi. Hein. Tu peux dire pour les malades qui ont besoin d'être guéris. Vous suivez ? Et si eux-mêmes, les pharisiens ou les scribes ou les bien-pensants de l'époque, s'étaient reconnus malades intérieurement, ils auraient suivi Jésus.
Ils n'auraient pas crucifié.
Vous voyez ? Mais comme il y a cette espèce d'orgueil, vous savez, et alors, on peut parler, j'en parlais l'autre jour, mais on peut parler on peut parler des juifs, mais on peut parler des chrétiens qui sont nés dans une famille chrétienne.
Ouais.
Ils ne sont pas meilleurs, souvent. Les chrétiens qui sont nés dans une famille chrétienne dont je fais partie de ces gens-là, d'accord ? On a une sorte de propension à penser qu'on est meilleur que les autres. Je ne sais pas d'où ça sort, c'est un esprit religieux. Et à moins d'une révélation et d'une profonde conviction de péché, vous pensez que parce que vous êtes enfant de chrétien, vous êtes né dans ce milieu évangélique, etc., vous pensez que vous êtes meilleur que les autres, vous voyez ? Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas plus vrai que dans Luc chapitre 15. Et le signe que vous pensez que vous êtes meilleur que les autres, c'est que quand quelqu'un qui est vraiment dans le péché jusqu'au cou ou jusqu'aux oreilles, Dieu lui fait grâce, il est transformé en un instant, il est baptisé, sa vie change de tout au tout, vous, le chrétien, d'accord, avec le privilège d'avoir des parents chrétiens, des grands-parents chrétiens, etc., vous dites « Non, mais c'est pas possible, il y a un problème, Dieu a dû faire une erreur ». Vous voyez ce que je veux dire ? Ou bien, oui, il s'est converti, mais enfin, attention, quand même. Vous comprenez ce qui se passe dans la tête ?
Ouais.
Et ça, c'est un esprit religieux.
C'est les pharisiens.
Oui, c'est les pharisiens. Ok. Donc pour vous, qui êtes sortis en direct, vous voyez, qui avez vécu le salut en direct, j'allais dire, et comment dire, vous dites, non, mais quelle bande d'hypocrites ? Et pour les hypocrites dont je fais partie ou dont je faisais partie, on ne comprend pas, on est jaloux. Moi, je me rappelle quand je voyais quand j'étais plus jeune et que je voyais des conversions comme ça, je disais, mais Seigneur, c'est pas juste. Moi, j'ai l'impression de ne pas m'être converti à côté d'eux. Parce que si vous voulez, le contraste était beaucoup moins grand entre ma vie passée et présente du point de vue des actes, du point de vue de la... J'étais un peu comme le frère aîné. Mais enfin, Seigneur, tu ne peux quand même pas lui faire la fête. Alors eux, là, pour eux, tu fais la fête. Et puis pour nous, là, nous, on doit aller à l'église depuis tout petit. On doit chanter les cantiques. On doit se casser la tête avec toutes ces histoires chrétiennes. Et puis finalement, on n'a pas de récompense. Vous voyez un peu ce qui se passe dans la tête des pauvres enfants de chrétiens. Ils n'ont rien compris. Sauf si, comme Seigneur nous fait grâce aussi, à un moment donné, tout à coup, Dieu te montre l'état de ton cœur et tu vois que potentiellement, il est aussi pourri que n'importe quel pêcheur professionnel. Ok ? Voilà. Et là, c'est bon. Après, vous êtes vacciné, c'est bon. Après, vous n'avez plus de jalousie, c'est réglé. Il faut une révélation. Et l'Épître aux Romains, c'est une révélation. Ok ? C'est pas seulement un raisonnement, même si Paul avance dans l'argumentation, c'est une révélation. Tous ont péché, verset 23 du chapitre 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous revenez sur ce texte, si vous réfléchissez à ça, tous, vous êtes dans le tous. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous ne pouvez pas y échapper.
Ah bon ?
D'accord ? Même si vous êtes Marseillais. Bon. Voilà. Et donc, on arrive au chapitre 4. On peut aborder le chapitre 4, puisqu'on n'a pas de coupure, là. Dieu est bon. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre, selon la chair ? Qu'a-t-il obtenu ? Donc là, Paul va développer ce qu'il a dit de manière tellement concise et ramassée dans les versets 21 à 31, concernant la justification par la foi. Parce qu'il a toujours en vue son public, son auditoire hébreu, en disant, eux, ils vont dire, attends, il y a un problème. Tu veux qu'on soit justifié par la foi, et donc la loi ne sert plus à grand-chose. Il y a un souci. C'est pas ce que Moïse nous dit. Donc, Paul prend l'exemple d'Abraham. Il remonte, en quelque sorte, plus haut que Moïse. Vous voyez ? Que dirons-nous donc d'Abraham ? Parce que Paul va montrer par les Écritures, celles qu'on appelle nous de l'Ancien Testament, il va montrer par la loi, c'est-à-dire, parce qu'il nous, disait, il nous a dit au verset 21 du chapitre 3, attester la justification par la foi, elle est attestée dans la loi et les prophètes. Et la loi, c'est l'histoire d'Abraham, parce que la Genèse fait partie de la Torah, la loi, vous comprenez ? Donc en parlant d'Abraham, Paul nous montre que la loi confirme la justification par la foi. Vous suivez ?
Tu peux répéter.
En prenant l'histoire d'Abraham, qui est tirée de la Genèse, qui fait donc partie de la loi de Moïse, Paul nous montre que la loi de Moïse confirme le fait qu'on est bien justifié par la foi. Ça veut dire que, comme disait un théologien, la loi, c'est la grâce. Dans le sens que dans la loi, il y a la grâce. Elle est déjà là, potentiellement. Elle est déjà là, sous forme de semence. Vous suivez ? Et dans l'histoire d'Abraham, il y a déjà la justification par la foi. Donc, Paul est en train de prendre ses adversaires juifs au sens religieux, en termes de débat, vous voyez ? Il est en train de les prendre par derrière, en disant, les amis, vous allez voir que la loi sur laquelle vous vous appuyez pour dire on peut être que justifié par les œuvres de la loi, cette même loi vous montre qu'en réalité, on est justifié par la foi. Prenons l'exemple d'Abraham, qui est dans la loi. Vous suivez ? Que dirons-nous donc qu'Abraham, ou d'Abraham plutôt, notre ancêtre selon la chair, qu'a-t-il obtenu ? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En d'autres termes, ce n'est pas les œuvres d'Abraham qui l'ont sauvé. En effet, que dit l'Écriture? Et là, il cite Genèse chapitre 15, verset 6. Dans le contexte de Genèse chapitre 15, Abraham a une discussion avec Dieu, et Dieu lui avait dit « Ta récompense sera très grande, je suis ton bouclier, tout va bien Abraham, j'accomplirai mes promesses. » Et Abraham lui dit « Attends, il y a un souci quand même, c'est que tu m'as promis un fils, mais pour le moment je n'ai pas de fils. Et j'en aurai probablement pas du tout, puisque ma femme est stérile. Donc ça ne colle pas ton histoire. Mon héritier, ce sera Eliezer de Damas. » Comme pour dire « Moi, tu peux me promettre toutes les récompenses que tu veux, ma seule récompense, la seule chose que je veux, c'est un fils. » Vous suivez? Si tu me donnes entre 20 millions de la loterie ou un fils, je choisis un fils. Abraham, il sait très bien où il va, Abraham. Et Dieu sait qu'Abraham veut ça. Et Dieu le lui a promis. Vous suivez ce que je veux dire? Donc la discussion devient intéressante. Et donc Abraham lui dit, écoute. Dieu lui dit, pardon, écoute, est-ce que tu crois en moi, oui ou non? Tu crois en ma promesse, oui ou non? Et il lui montre les étoiles, et il lui dit, compte les étoiles si tu peux, telle sera ta postérité. Toi, tu parles d'un fils, moi je te parle des étoiles du ciel. Ok? Et qu'est-ce qu'il est dit ici? Verset 3 du chapitre 4, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Genèse 15, verset 6. Et toute l'argumentation de Paul en ce qui concerne la justification par la foi, elle est basée, disons, pas seulement, mais essentiellement sur ce verset. C'est-à-dire que Abraham, à ce moment-là, Dieu l'a justifié sur la base de sa foi, et non pas de ses œuvres. Parce que franchement, Abraham, dans Genèse 15, il a encore pas mal de défauts. Et pas que des défauts, mais il fait des bourdes, et des bulles, et des boulettes énormes. Vous voyez ? Mais ça n'empêche que Dieu lui dit, je te compte ça, je te crédite ça en justice, parce que tu as cru en moi. Vous voyez? Ouais.
Et après, il dit oui, comme ceux qui ont les salaires impus, que ce n'est pas comme les salaires, la grâce. Ce n'est pas par les œuvres, mais celui qui fait une œuvre.
Ouais.
La grâce qu'il a, elle n'est pas comptée comme une grâce, mais imputée comme un salaire.
Oui, on le verra plus tard, ça arrive, on y arrive. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. D'accord? Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. En d'autres termes, si je fais un travail, je vous fais le carrelage de votre salle de bain, j'ai un salaire, j'ai fait une œuvre, vous me payez en fonction du travail que j'ai fait. D'accord? Et quand vous me payez, ce n'est pas une faveur. C'est pas, tiens, on va te faire un petit cadeau, tiens, on te trouve sympa. Non, non, tu as fait un travail, on te paye, c'est pas pareil. C'est pas une grâce, c'est un salaire. Ok? Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Ça veut dire que maintenant, si je reçois le cadeau de la justice de Dieu alors que j'ai rien fait, c'est uniquement sur la base de ma confiance en Dieu. Vous suivez? L'enfant qui naît dans une famille, il n'a rien fait. Et pourtant, regardez tout ce qu'on fait pour ce bébé-là. On lui fait une chambre toute neuve, on lui achète des couches, on dépense, je ne sais pas combien on dépense pour un enfant, mais je veux dire, on lui paye des études, son cartable, chaque année, les frais, etc. Bon, maintenant, il y a l'État qui s'en va, je veux dire, c'est incroyable tout ce qu'on investit pour un enfant. Et il ne fait rien pour le mériter. À la limite, il fait l'inverse. Il fait que des bêtises. Vous voyez? Si on veut bien. Mais par contre, il y a une chose qui caractérise l'enfant, c'est qu'il a, il a une confiance en ses parents qui est incroyable. Vous voyez? Il sait qu'il aura à manger. Il sait qu'on va lui laver ses chaussettes. Et d'ailleurs, il les jette à travers la chambre parce qu'il a une confiance, il est tranquille. Vous voyez, je veux dire? Il vit dans la grâce. Vous suivez? Alors bon, petit à petit, les parents, ils disent, bon, maintenant, il faut qu'ils apprennent un petit peu la valeur des choses. Vous voyez, il y a une éducation qui est faite. Mais au départ, on vit que dans la grâce. Vous suivez? Donc, ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas un dû. C'est juste la grâce. Donc celui qui fait une œuvre, verset 4, le salaire est compté non comme une grâce mais comme un dû. Celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Est-ce que vous comprenez que Dieu est votre Père? Ok? Donc, détendez-vous. Détendez-vous. Ok? Il va pourvoir. Il va agir. Il va faire grâce. Sa grâce est là. D'accord? Mais, on verra maintenant, ça ne veut pas dire, ah bah, ok, super, je vais faire les 400 coups. Ce n'est pas dans ce sens-là que je le dis, évidemment, vous avez bien compris. De même, alors oui, tu avais une question? Oui.
Donc, pardon, et c'est lui compté. Parce que, bah, il y a la notion de salaire, là.
Oui, salaire, oui. Bon, ça, ça t'intéresse.
A contrario, non.
Oui. A contrario, oui.
A contrario, il y a compté.
Oui.
Alors, on compte quoi? On compte les étoiles
Non. Sa foi lui est comptée ou lui est littéralement imputée. Elle est mise sur son compte.
Mais le compte t'as fait de un peu la... dans le ciel.
Ah, de quel compte
quel
il s'agit?
Compte
il
parle, là.
Ok. Il s'agit du compte justice de votre vie, parce qu'un jour, on devra rendre compte devant Dieu.
Voilà, c'est ça.
Pour notre vie. Vous comprenez? Et quand on va comparaître devant Dieu, mais c'est une très bonne question que tu poses, quand on va comparaître devant Dieu, si on a l'image de l'islam avec une balance, avec les mauvaises actions et les bonnes actions sur chaque plateau, on est mal barré. On ne sait jamais si on va être sauvé ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'arbitraire total, là. Mais on n'est pas dans l'islam, qui est un mensonge. On est dans la vérité de la parole de Dieu. Et Dieu dit, ta foi te sera comptée, est imputée sur ton compte de justice, c'est-à-dire que du moment que tu as eu la foi dans le sang de Jésus, tout ce que tu as fait comme péché, c'est effacé par le sang de Jésus. Et tu es justifié par le sang de Jésus. Vous comprenez? Donc on a une assurance du salut pour le jour où on comparaîtra devant le Seigneur. Est-ce que vous suivez ça? Et c'est extraordinaire d'avoir cette assurance de salut. Hein? Non pas qu'on l'ait mérité, mais parce qu'on sait, parce qu'on a la foi en Jésus. Oui?
Donc on ne perd pas son salut. On peut pas le faire.
Donc on ne peut pas perdre son salut. Je sais que j'ai dit quelque chose qui va choquer beaucoup, plusieurs, mais je vois pas comment on peut perdre un si grand salut. Je vois pas comment. Je sais pas faire. Vous me direz, oui, mais alors celui qui fait n'importe quoi, il a été sauvé, puis il fait n'importe quoi, il en profite à fond, entre guillemets, profiter, parce que c'est vraiment un profit, je crois pas. C'est Dieu qui justifie, et c'est Dieu qui s'occupe de chacun. Oui, et Dieu est assez grand pour gérer la situation. Maintenant, par contre, tu peux perdre tes récompenses. 1 Corinthiens 3. Tu peux perdre tes... Ou 1 ou 2 Corinthiens 3, je ne sais plus. Tu peux perdre tes récompenses. Là, c'est plus embêtant. Vous voyez? Parce que ça veut dire que, oui, tu auras fait n'importe quoi, mais tu arriveras au ciel et tout à coup, tu réaliseras que tu as perdu énormément de choses. Et tu as gaspillé, en quelque sorte, la grâce qui t'avait été donnée, complètement gaspillée. Tu n'as rien fait avec cette grâce. Ta vie aurait pu être remplie de fruits, de bonnes œuvres, de choses extraordinaires, à cause de la grâce que Dieu t'avait faite, et tu n'en as rien fait. Tu t'es assis sur un fauteuil, et tu as dit, comme dans un cinéma, on va attendre la fin du film. Vous voyez? Tu n'as pas été acteur, tu n'as pas travaillé à ton salut, tu n'as pas eu la vision... Comme dit Paul, la couronne de justice m'est réservée. J'ai combattu le bon combat. Donc tu seras sauvé de justesse, tu seras sauvé comme au travers du feu, d'accord? Et tu auras la honte devant Dieu de ce que tu n'auras rien fait. Vous suivez? Donc, ça oui, par contre, on peut le dire. Maintenant, il y en a qui disent qu'on peut perdre son salut. C'est tout un débat, je ne peux pas rentrer dedans maintenant. Mais quand on regarde ce qui concerne la justification... Ça paraît difficile de pouvoir perdre un si grand salut. Mais bon, je ne veux pas en débattre maintenant, vous donner tous les arguments. Pour ou contre, qui existe? Donc, quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice, mise sur son compte. D'accord? Et ça, c'est extraordinaire. C'est la justice de Dieu est mise sur son compte, parce qu'il a cru dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Non seulement le péché est effacé, mais la justice est mise sur son compte. En fait, ça va beaucoup plus loin que tout ce que vous imaginez.
Et oui, parce que le salaire du péché, c'est la mort.
Voilà. Donc, on est arraché à la mort, mais en même temps, on reçoit la justice de Christ. Vous voyez ? Et c'est, en quelque sorte, vous pouvez vivre votre chrétienne au niveau zéro. Niveau de la mer. Ah, je suis sauvé, c'est bon. D'accord ? Mais après, j'en reste là et j'attends le retour du Seigneur. Non. Tu peux complètement entrer dans la vie nouvelle de Christ et la justice de Christ est mise sur ton compte et tu peux, à ce moment-là, avoir une vie enfin, qui ressemble à celle de Christ. Vous suivez ? Et ça, c'est extraordinaire. Mais on reviendra là-dessus. Verset 6. « De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. » Je crois que c'est le psaume 32, si je ne me trompe pas, oui, qui parle du pardon des péchés. C'est David qui fait l'expérience avec l'histoire de Bathsheba et du crime de Uri le Héthien. Il fait l'expérience du pardon de Dieu. Hein. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Ouais. Et alors, Paul parle d'Abraham, Paul parle de David, pour dire cette justification par la foi, elle existe dans la loi, dans l'histoire, l'Ancien Testament. Vous voyez ? Verset 9. « Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis ? Car nous disons, pour Abraham, la foi fut comptée comme justice. » Comment donc était-il lorsqu'il lui fut compté ? Était-il circoncis ou non ? Il n'était pas encore circoncis. Genèse 15, 6, c'est avant Genèse 17. Et c'est dans Genèse 17 qu'il est circoncis. Il était incirconcis. Et là, dit Abraham, là, Paul dit, voyez, scribe, juif, pharisien, religieux, okay, vous qui vous appuyez sur la circoncision, Abraham, quand il est encore incirconcis, Dieu lui compte sa foi comme justice. Donc, il y a de l'espérance pour les païens. Amen. Vous suivez le raisonnement de Paul? Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau, donc comme, si vous voulez, comme marque et comme assurance, vous voyez, je veux dire, pour dire, c'est bon, Abraham, t'es vraiment justifié, tiens, la preuve, je te circoncis. Hein ? Comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Alléluia. Et il est aussi le père des circoncis qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore, qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En d'autres termes, il dit maintenant, je suis en train de vous expliquer que pour les incirconcis, il y a un espoir, puisque Abraham était encore incirconcis quand il était sauvé par la foi, mais pour vous qui êtes du peuple d'Abraham et qui êtes dans la circoncision, Abraham est aussi votre père, à condition quand même que vous ne marchiez dans la même foi que votre père Abraham quand il était incirconcis, que vous fassiez la même expérience que lui. David était circoncis quand il a été justifié. D'accord ? Par rapport à ça, il était déjà circoncis. Mais il a fait l'expérience d'Abraham avant sa circoncision en tant qu'homme circoncis. Vous suivez ? Donc il est en train de nous dire, on est tous, juifs ou grecs, justifiés par la foi, et il vient nous faire une démonstration par les Écritures. Vous suivez ? Donc vous avez en même temps dans les Romains l'explication du salut, l'explication de la justification par la foi, et en même temps, vous avez une leçon rabbinique d'interprétation des Écritures. C'est pas mal, hein ? Il y a de quoi faire. Vous avez de quoi étudier, là. Donc, on a vu, là, Romains 4, versets 1 à 12. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que vous avez de quoi réfléchir et poser des questions pour la semaine prochaine, si vous voulez. Mais c'est comme ça que Paul avance dans son argumentation. Alléluia ! Et on verra, pour nous, de plus en plus, qu'est-ce que ça représente pratiquement, cette vie par la foi, cette justification par la foi, dans notre vie chrétienne pratique. Vous voyez ? Dans notre vie quotidienne, je veux dire. qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Mais déjà, les bases sont posées. On comprend d'où ça vient, comment c'est possible. Comment est-ce que Dieu peut rester juste tout en justifiant le pécheur. Amen. Que Dieu vous bénisse.